VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Procès de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de La Haye. Le président du tribunal a présenté aujourd'hui ses excuses pour la divulgation par erreur la semaine dernière de l'identité de plusieurs témoins à charge dont les noms devaient rester secrets. Plus de détails avec John Lyndon.
L'incident s'est produit alors que le procureur Eric McDonald demandait le huis clos pour protéger trois témoins dont il a cité ensuite les noms. Ceux-ci sont clairement audibles sur la chaîne de la CPI et ils se sont rapidement retrouvés sur les réseaux sociaux. Une quatrième identité a ensuite été dévoilée selon des médias. Avant tout, le tribunal doit présenter ses excuses. Je pense qu'il est juste de le faire, a déclaré le juge Kuno Tarfuser. Ses excuses concernent la cour dans son ensemble parce que ce qui s'est produit est vraiment incroyable, a ajouté le magistrat, visiblement embarrassé. La gaffe a fait la une de la presse en Côte d'Ivoire ce week-end, même si les partisans de M. Gbagbo, comme ceux de son rival, le président Alassane Ouattara, en ont minimisé la portée. La protection des témoins au procès devant la justice internationale est cruciale. Beaucoup redoutent des représailles et la CPI tente de cacher leur identité pour les protéger.
Afrique de l'Ouest toujours, arrivée aujourd'hui à Ouagadougou de l'Australienne Jocelyn Elliott, relâchée au samedi grâce à l'aide du Niger après avoir été kidnappée avec son mari médecin à la mi-janvier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda. L'ex-otage australienne déclare vouloir retrouver son mari et rester au Burkina. Anne Albertson.
Madame Elliott et son mari, Arthur Kenneth Elliott, avaient été enlevés à Djibo, dans le nord du Burkina, à la frontière avec le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 16 janvier, lors d'une action apparemment coordonnée. Cette nuit-là, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, des attaques djihadistes contre le café-restaurant Cappuccino, les hôtels Splendide et Yibi et un bar avaient fait 30 morts et 71 blessés. Dans la journée du 15 janvier, une attaque contre des gendarmes avait également fait 2 morts à Tinakoff, dans le nord. L'enlèvement du couple australien avait été revendiqué par Ansar Dine, groupe djihadiste de l'ex-chef rebelle touareg malien Iyad Aghali, au nom de l'Émirat du Sahara. Selon des spécialistes des milieux islamistes, cette appellation désigne une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les époux Elliott vivaient au Burkina depuis 1972 et étaient engagés dans des opérations humanitaires en faveur des populations de la province du Soum et celles des pays voisins du Mali et du Niger. Le docteur Arthur Kenneth Elliott reste encore aux mains de ses ravisseurs.
Au Mali, la plateforme pro-gouvernementale et la coordination des mouvements de l'Azawad sont tombés d'accord pour cohabiter pacifiquement à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. Des centaines de membres de la plateforme, une coalition de groupes armés soutenant le gouvernement malien, sont entrés sans violence le 2 février à Kidal. Ces deux groupes se sont battus plusieurs fois dans le passé, malgré l'accord de paix conclu après des mois de négociations à Alger. Et puis au Bénin, le 28 février, les électeurs vont aux urnes pour choisir le successeur du président Thomas Boni Yayi. La campagne électorale n'a pas encore officiellement démarré, mais les candidats vont déjà à la rencontre de leurs militants au mépris du code électoral. Résultat, les petits foyers de tension prennent corps au sein de la population et certains candidats dénoncent une politique de deux poids, deux mesures. Les membres de la société civile et des confessions religieuses ont ainsi appelé au calme et à la préservation de la paix pour des élections libres et transparentes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Rwanda, important changement au sein du leadership des forces armées. Le général Patrick Nyamvumba a perdu son poste de chef de l'état-major. Il est remplacé par le général Jacques Moussé Makweli, qui était jusqu'à présent le commandant de la garde présidentielle. Au Sénégal, reprise du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Les audiences entrent dans leur deuxième phase avec les plaidoiries entrecoupées du réquisitoire du parquet général le 12 février. Plus de précisions avec Idriss Fall.
Au début de la séance, maître Yare Fall, avocat des parties civiles, a déclaré que rien ne pouvait se faire au Tchad sans en référer à Hissène Habré, ajoutant que c'est lui qui libérait et c'est lui qui faisait exécuter. Il résume ainsi la teneur des dépositions à la barre depuis l'ouverture du procès le 20 juillet 2015 jusqu'à son ajournement le 15 décembre. D'après Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires, les plaidoiries des 15 avocats des parties civiles sont prévues lundi et mardi. Le réquisitoire du parquet général est programmé pour mercredi, puis jeudi et vendredi, les plaidoiries des 3 avocats commis d'office à la défense. Les audiences seront ensuite suspendues pour le délibéré avec un prononcé du verdict vers la fin mai. En détention depuis juin 2013, Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Depuis l'ouverture de son procès, il récuse le tribunal et refuse de s'exprimer.
Au Tchad, même libération sans inculpation aujourd'hui d'une vingtaine de manifestants qui avaient défilé samedi à N'Djamena pour protester contre la répression de la jeunesse avant d'être arrêtés. C'est ce qu'annonce le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, Kamojet. Le procureur de la République et le directeur de la police judiciaire sont venus à notre lieu de détention pour nous annoncer que nous sommes libres, a déclaré à l'AFP Hervé Pando, membre de l'une des associations des droits de l'homme, arrêté avec 22 manifestants. Côté gouvernement, le procureur de la République a affirmé, je cite, « Pour le moment, le ministère public n'a pas souhaité engager des poursuites contre les personnes arrêtées. Nous ne pouvions donc que les libérer », a-t-il ajouté. En RCA, troisième jour de la campagne électorale ce lundi, dans le cadre du second tour de la présidentielle, les deux candidats en lice reçoivent maintenant de plus en plus de soutien de la part des aspirants à la présidence recalés au premier tour du scrutin. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
À la différence de la campagne électorale pour les législatives, plutôt timide, la campagne pour le second tour de la présidentielle est bien mouvementée. Lancée le 6 février, les deux candidats n'ont pas attendu pour solliciter les suffrages de quelques 2 millions d'électeurs centrafricains. Alors que le candidat Faustin Archange Touadéra se lance à la conquête des électeurs de Bouar, Bozoum et Bossangwa, le même samedi, jour d'ouverture de la campagne électorale, le collectif des candidats à la présidentielle tient un grand meeting en sa faveur au point zéro au centre de Bangui. Jean-Baptiste Koba, candidat du mouvement social de l'évolution de l'Afrique noire Messin à la présidentielle du 30 décembre 2015.
Mais je vais vous dire une chose, Faustin Touadéra va nous rendre riches. Il va nous rendre riches d'abord nous-mêmes. Faustin Touadéra va nous rendre riches de sécurité.
De son côté, le candidat Nissé Georges Dologuélé a reçu dimanche un soutien de taille, celui du Rassemblement démocratique centrafricain de Désiré Bilal Zanga Kolimba, sorti troisième à l'issue du scrutin présidentiel du 30 décembre. Désiré Bilal Zanga Kolimba.
Lors du premier tour de ces élections, le RDC et moi avions défendu, conformément aux idéaux de notre parti, l'homme de Centrafrique. Aujourd'hui, le peuple a décidé. Nous en avons pris acte. Voilà pourquoi le Rassemblement démocratique centrafricain a décidé de dire oui. Le RDC dit oui au Rassemblement et à Nissé Georges Dologuélé.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, deux leaders d'opposition de la plateforme IDC, Frocad, se sont déclarés ce week-end candidats au prochain scrutin présidentiel. Il s'agit de Guy Brice Parfait Kolela, ancien ministre de la fonction publique, et de Clément Mierassa, candidat malheureux à la présidentielle de 2009. Les deux hommes répondent ainsi à la stratégie de multiples candidatures pour espérer battre le président Denis Sassou Nguesso, qui fait encore mystère autour de ses intentions de briguer un nouveau mandat. Afrique du Nord, Égypte, Human Rights Watch a accusé aujourd'hui le ministre égyptien de la Justice d'appeler au massacre d'opposants islamistes après qu'il a souhaité à la télévision la mort de dizaines de milliers de frères musulmans. Le 28 janvier, le ministre de la Justice, Ahmed El Zine, a en effet déclaré à une chaîne de télévision qu'il ne serait pas satisfait tant que 10 000 frères musulmans ne seraient pas tués pour chaque membre des forces de sécurité ayant péri dans un attentat. L'Organisation de défense des droits humains, basée à New York, a exhorté le président Abdel Fattah al-Sissi à condamner les propos de son ministre. Et puis le Parlement algérien a adopté hier un projet de révision de la Constitution qui prévoit le rétablissement de la limitation du nombre des mandats présidentiels à 2. Et enfin, en Haïti, le président Michel Martelly a achevé dimanche son mandat présidentiel sans remettre le pouvoir à un successeur en raison du report des élections. Le processus électoral a en effet été stoppé à la suite des contestations de l'opposition qui dénonçait un coup d'État électoral fomenté par le pouvoir exécutif. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.